oui, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue devant la présence de notre Dieu. Ce soir, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ensemble. Pour commencer notre réunion, je vais demander à notre sœur Sandra de prier pour nous.
Tendre Père, nous bénissons ton nom pour cet amour, Père éternel. Et dans la joie d'être dans ta présence, nous voulons recommander tout entre tes mains, Seigneur. Utilise-nous, parle-nous, instruis-nous, Père éternel, et que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul, Père éternel. Dirige ta servante, ô Dieu, conduis-la, Père éternel, ô Dieu, et que tout ce qu'elle va faire sortir, Seigneur, Père éternel, ô Dieu, que tu lui accordes la sagesse et l'intelligence qu'il faut, Seigneur, mon roi. Merci encore infiniment, Père éternel, pour ceux de l'Europe, Seigneur, précède leur pas, sois avec eux, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma sœur Sandra, pour la prière. Bien-aimée dans le Seigneur, comme on a dit tout à l'heure, nous sommes dans la joie, nous allons commencer notre méditation de ce soir, et c'est dans le livre de Chronique, deux chroniques que nous avons amorcées depuis hier. Nous continuons aujourd'hui, c'est deux chroniques, chapitre 2, et nous allons lire tous les chapitres qui contiennent 18 versets. Pour cela, je vais demander à notre pasteur Célestin de nous faire la lecture, s'il vous plaît.
Oui, merci.
Oui, merci pour la parole. Nous lisons dans la version seconde révisée, 2 Chroniques 2, de 1 à 18. D'autres versions commencent de 18 jusqu'à 17. Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 hommes pour porter les fardeaux, 90 tailleurs de pierre dans la montagne et 3600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Horam, roi de Tyr, « Fais-moi comme tu as fait pour mon père David, à qui tu as envoyé des cèdres pour qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'ai bâti une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les rangées de pain et les holocaustes du matin et du soir, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux solennités de l'Éternel notre Dieu, comme cela incombe pour toujours en Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison? Tout au plus, pourrais-je faire brûler des parfums devant lui? À présent, envoie-moi un homme habile à travailler l'or, l'argent, le bronze et le fer, les étoffes teintes en pourpre, en carmine et en violet, et connaissant l'art de la gravure, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que mon père David a prévu. Envoie-moi du Liban, du bois de cèdre, de cypre et de satal, de santal plutôt, car je sais que tes serviteurs savent couper le bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec tes serviteurs. Qu'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront les arbres, 20 000 corps du froment foulé, 2000 corps d'orge, 2000 battes de vin et 2000 battes d'huile. Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon, « C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. » Huram dit encore, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre, de ce qu'il a donné au roi David, un fils sage, un bon sens et à l'intelligence éprouvée, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie maintenant un homme habile à l'intelligence éprouvée, Huram Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze et le fer, la pierre, le bois, les étoffes teintes en pourpre et violet, les étoffes de byssus et de carmine. Il connaît tout l'art de la gravure et la fabrication de tous les objets qu'on lui donnera à exécuter avec des hommes habiles et avec les hommes habiles de mon seigneur David, ton père. Maintenant que mon seigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Nous, nous couperons du bois, du Liban, autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, par flottage, jusqu'à Java. Et tu les feras monter à Jérusalem. Salomon compta tous les immigrants qui étaient dans le pays d'Israël et dont le compte avait été fait par son père David. On trouva 153 600 et il en prit 70 pour porter les fardeaux, 80 comme tailleurs de pierre dans la montagne et 3600 pour surveiller et faire surveiller le peuple. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur Célé, pour la lecture. Merci beaucoup, Pasteur Célé, pour la lecture de ce passage. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons entendu la lecture faite par notre Pasteur Célé dans le livre de dans Deuxième Chronique, chapitre 2. C'est tous les chapitres qu'il a lus pour nous. Bien-aimés, c'est depuis hier que nous avons amorcé ces deuxième chroniques, ces chapitres, ces deuxième chroniques plutôt, ces deuxième livres, et où on nous parle presque, nous pouvons dire, on parle de David, de Salomon, donc dans ce livre, c'est plus... comme disait le pasteur José, c'est le royaume du sud qu'on parle le plus. Hier, nous avons vu combien, bien-aimé, Salomon était dans la joie. Il est à la place de son père. Il règne, mais il veut rendre toute la gloire à notre Dieu. La première chose, c'est qu'il appelle, ceux qui étaient à son service. Nous avons vu qu'il a appelé tout Israël par grade ou quoi je peux dire. Donc, il y avait des chefs qui sont venus là et c'était pour offrir les sacrifices tellement qu'il était reconnaissant. Il a donné, sacrifié 1000 bêtes et il a 1000 holocaustes, ça a plu vraiment le cœur de Dieu, que Dieu l'a visité cette nuit-là. Il a paru pour lui dire, demande-moi tout ce que tu veux. Et lui, tellement qu'il aimait Dieu, l'amour du Seigneur en lui, n'a pas voulu qu'il demande ses besoins personnels, mais il a demandé la sagesse et la connaissance pour bien diriger ce peuple nombreux qui était, qui donc lui régnait sur eux. Et Dieu avait tellement aimé cette demande qu'il lui a accordé beaucoup d'autres choses au-dessus de tout. Nous avons de tout cela. Nous avons vu que quand nous demandons, Dieu nous donne au-delà de notre entendement humain. Alors, bien aimé, il y avait beaucoup d'autres choses encore. Mais là, nous sommes arrivés à ce point. Aujourd'hui, c'est on nous apprend la prédiction. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme titre? C'est la préparation de la construction du temple. Vous vous souvenez que son père David avait voulu construire ce temple et que Dieu l'avait dit, non, tes mains sont pleines de sang, ce sera ton fils qui construira ce temple. Et c'est vraiment exactement ça. Nous savons qu'avant la mort de son père, il avait prévu, il avait préparé des matériaux pour la construction de ce temple. Et là, c'est le moment, l'enfant qui arrive au pouvoir, à son règne, mais il est en train de préparer comment la construction de ce temple. Et nous voyons dans la préparation, il est en train de construire non seulement son temple, disons une maison au nom de l'Éternel, mais une maison royale pour lui aussi, pour habiter. Et dans la construction, dans la préparatif, bien aimé, nous voyons, il y a des hommes, il prépare des hommes, il prépare aussi des matériaux. Et les matériaux, il fait appel à Hiram. Quand nous regardons au chapitre, disons, 1 Chronique, chapitre 14, nous voyons comment est-ce que David, son père, aussi, pendant la construction de sa maison, palais royal, il avait envoyé des messagers à, disons, Hiram, roi de Tyr, envoyait des messagers à David avec du bois de cèdre, ainsi que des maçons et des charpentiers pour lui bâtir un palais. Voilà. Donc, Hiram était celui, le roi de Tyr. Vous connaissez Tyr, nous on parle, c'est une ville païenne de bien-aimé. Mais ce roi aimait David. Il avait vu sûrement que dans cet homme était différent, c'était le choix du Seigneur. Et il avait aidé David, il avait envoyé le bois. Maintenant aussi, l'enfant suit l'exemple, collabore avec celui que son père s'entretenait. Il lui fait une demande pour un homme habile et certains matériaux. Ça, c'est vraiment aussi l'exemple à suivre. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Nous voyons aussi l'objectif, dans la préparative, l'objectif de cette maison au nom de l'Éternel. C'est pourquoi? Parce qu'il est conscient que Dieu n'habite pas là-bas la maison faite par les mains d'hommes. Je ne veux pas, bien-aimé, aller dans la profondeur. Et quand il demande bien des choses chez Hiram, lui aussi propose à Hiram. Là, c'est le verset 9. Je ne veux pas non plus aller ensemble. Nous allons découvrir par la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu, dans la lumière du Saint-Esprit, nous allons ensemble, bien-aimés, commencer de décortiquer et découvrir qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, bien-aimés, j'aimerais que le texte est un peu long. Nous allons partager. Et prenons juste 2 minutes. Quand on parle trop, on ne fait que multiplier des mots. Même on revient aux phrases 2 ou 3 fois, même phrase. Donc, j'aimerais vous donner à vous la parole. Mais pendant que nous allons bien aimer, nous avons la parole, réfléchissons à ces 2 questions. Question 3 et question 7. Question 3, y a-t-il un exemple à suivre? Question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, jusque-là, la technique nous sourit. Il n'y a que papa Samuel qui est entré lui-même, qui s'est mis à mythe. Peut-être il y a des bruits chez lui. Mais nous pouvons bien aimer parler et soit appuyer sur l'étoile. Mais jusque-là, personne n'est à mythe. Amen.
Amen.
Voilà, je donne à vous la parole. en attendant que la modératrice voie demain, elle peut parler de la préparation. Donc, pour la construction, bien aimé dans le Seigneur, la préparation dans la vie est très, très importante. Quand nous voulons faire quelque chose avec succès, nous voulons réussir, nous devons bien préparer. Et même la méditation, quand nous venons, nous ne nous préparons pas, nous ne savons pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans le contenu ou quoi que ce soit, qu'est-ce que Dieu va nous enseigner. Mais quand nous préparons, comment est-ce que je vais faire ma méditation, je fais ma lecture et tout ça, nous allons vraiment édifier aussi les autres. Alors ici, c'est un très bon exemple. Si nous voulons même construire une maison, construire quelque chose, faire quelque chose, nous devons préparer pour le succès de ce que nous voulons faire dans la vie. Amen.
Amen.
Oui, bien-aimé, qui veut nous prendre le verset, soit dans certains versets, c'est 18, ou soit 1. Qui peut nous prendre ce verset, s'il vous plaît?
Moi, je vais parler, mais pas ce verset-là.
Oui.
Je peux dire quelque chose, s'il vous plaît?
Oui, allez-y, papa.
Merci beaucoup. Je veux dire que je vois ici la fidélité de Dieu. Parce que Dieu avait répondu à David que ce n'est pas toi qui vas me construire une maison, mais c'est ton fils. Mais il ne lui a pas donné la date, ni les jours, mais il lui a parlé. Et puis maintenant, David est mort. C'est l'heure de Salomon. Mais Salomon ne savait pas que c'est demain que le Seigneur va me parler. C'est demain qu'il va m'expliquer comment je vais faire pour construire la maison. Non. Donc Dieu, dans sa fidélité, met des circonstances de temps. Quand l'heure était arrivée, l'heure de l'Éternel, le cœur de Salomon était bousculé par l'Esprit de Dieu. Il va prendre la décision de vouloir construire une maison pour son Dieu. Donc, quand je méditais ça le matin, je disais que ça, c'est la fidélité de Dieu. Nous pouvons nous poser beaucoup de questions, mais qui demeurent sans réponse. Mais l'heure est arrivée, au temps voulu, selon qu'il a dit dans sa fidélité, et puis Salomon va être saisi par le Saint-Esprit pour dire que je vais construire une maison pour mon Dieu.
Amen.
Voilà, je m'arrête un peu là.
Merci beaucoup, Papa José de Paris. L'heure, c'est le moment, c'est la fidélité de Dieu, c'est le temps que le Seigneur avait planifié dans son programme divin. Et Salomon est la prompte, il ordonne qu'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Merci beaucoup. Nous donnons la parole au pasteur José des États-Unis, s'il vous plaît.
Oui, merci beaucoup. Frères et sœurs, je suis au verset 2 où nous voyons Salomon envoyer des hommes à Hiram, roi de Tyr. Les hommes, disons le message que le roi envoya, ce message est parti avec les mêmes gens qui étaient venus quand David est mort. Quand nous lisons au chapitre précédent, c'est-à-dire pas dans le livre de Deux Chroniques, mais David est mort. Selon le texte, l'histoire est racontée dans le premier livre. Et là, nous trouvons les messagers de Hiram, le roi de Tyr. les messagers étaient venus présenter leurs condoléances à ce roi nouveau, ce qui est Salomon. Alors, je vais dire que le roi Hiram était un roi qui voulait entretenir de bonnes relations avec le roi d'Israël. Parce que quand le roi d'Israël est mort et que son fils a pris la place, il envoie les condoléances. La même chose, le roi d'Israël était en bonne relation avec le roi d'Hiram. Donc les deux rois de deux peuples différents étaient en bonne relation. Et ce sont ces relations-là que Salomon va continuer à exploiter pour la construction de la maison de Dieu. Donc, être en bonne relation avec des gens, c'est une bonne chose. Parce que, pour le cas présent, Israël n'avait pas de bois, de bon bois, du bon bois pour la construction. Il faut importer ces bons bois. Et bien sûr, on va acheter, mais il faut de bonnes relations parce que le roi d'Israël va bénéficier du travail des Tyriens. Il envoya aussi des personnes pour faire le même travail, mais il compte sur la main-d'œuvre du peuple de Tyr. Donc, être en bonne relation, c'est bien que de chercher toujours des problèmes parce qu'on peut manquer ce qu'on doit avoir sans trop de problèmes à cause de la mésentente qui reste entre les deux. Donc, nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à soigner des relations. Merci.
Merci, papa, pour votre intervention. Bien-aimé, ici, nous voyons, comme a dit précédemment notre frère, papa Saint-José de Paris, la fidélité de Dieu, l'accomplissement, c'est le temps de la construction. Et verset 1, on nous dit, Salomon compta les hommes. Il prépare d'abord les hommes, il a le nombre des hommes qui doivent faire ceci, cela. Et maintenant, il envoie un message à ses rois, donc Hiram. C'est un très bon exemple à suivre que ces deux rois, disons les rois, que ce soit d'Israël ou de Tyr, ils gardaient de bonnes relations. Et surtout ici, c'est un roi païen, c'est vraiment quelque chose de bon encore. Un païen qui garde de bonnes relations avec Israël. Donc, dans la vie, nous devons garder de bonnes relations. Nous pouvons manquer. Si nous avons de bonnes relations, nous allons demander. Mais quand nous n'avons pas de bonnes relations, nous n'oserons même pas faire notre demande. Amen. Donc, ça, c'est un très bon exemple à suivre. Bien-aimé, qui peut nous prendre le verset 3, s'il vous plaît, disons, dans certains, c'est 4. Donc, la modératrice, en attendant, parle pour que le temps ne passe pas. Voici, j'ai bâti une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Donc, le verset 3, du moins, il nous donne les objectifs de la maison, parce qu'il est conscient que Dieu ne reste pas. Cette maison qu'il construit au nom de l'Éternel, pourquoi? Pour quelle raison? La première raison, c'est pour lui consacrer. Pour la lui consacrer, ça c'est la première raison. Deuxième raison, pour brûler devant lui les parfums odoriférants. Troisième, c'est pour présenter continuellement les rangées de pain et les holocaustes du matin, du soir, le sabbat, aux nouvelles lunes, aux solennités de l'Éternel, notre Dieu, comme cela incombe pour toujours en Israël. Voilà, bien-aimés, il était quelqu'un, Salomon était celui qui était au courant qu'est-ce qu'on faisait dans la maison de l'Éternel. Et si je dois bâtir, même le Seigneur a parlé, mais il savait c'est à quoi, quelle est la raison de bâtir cette maison. Il avait la connaissance. Donc ça, c'est un très bon exemple à suivre. On ne fait pas quelque chose pour faire, mais on sait que ce que je fais, c'est pour ceci et cela. Et ça, Dieu est content. Parce que les raisons qu'il présente, c'était ce que le Seigneur lui-même exigeait à son peuple de faire. Amen.
Amen.
Mm-hmm. Nous donnons, redonnons la parole à Papa José des États-Unis.
Merci beaucoup, ma sœur. Au verset 4, le roi Salomon fait une sorte de confession, en même temps témoignage. Il dit, « Oh, le temple que je veux construire doit être grandiose, car notre Dieu est plus grand que n'importe quel Dieu. » Voilà. Donc, il pouvait s'arrêter seulement, envoie-moi du bois, ceci, comme il a décrit dans le verset précédent, il pouvait s'arrêter là. Mais il lui montre que cette maison-là est dédiée à mon Dieu. Et je vais faire une grande maison, puisque mon Dieu est grand et que c'est lui qui est au-dessus de tous les dieux. En même temps, il témoigne de ce Dieu à son interlocuteur. Que l'interlocuteur sache que le Dieu là, il est plus grand que tous les dieux, c'est-à-dire il est plus grand que notre Dieu. Hein, parce qu'à cette époque, chaque peuple avait son Dieu. Et le Dieu d'Israël est le plus grand. Il est le plus grand. Et le roi Salomon le témoigne. Il ne cache pas, il témoigne. Bien-aimé, un exemple à suivre. Nous avons un grand Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Nous savons ce qu'il a fait. Nous savons ce qu'il a fait dans l'Ancien Temps. Écrit, nous trouvons cela dans la Bible, mais nous savons ce qu'il a fait en nous. Et il faut vraiment que nous disions ce que Jésus-Christ a fait, ce qu'il est aux autres. Pas les cacher, parce que les autres, bon, tous les prophètes sont pareils. Et même Jésus-Christ. Vous dites, non, mon Jésus n'est pas comparable aux autres. Pourquoi tu dis des raisons? Ça, c'est vraiment une bonne manière de témoigner de sa foi. Merci.
Amen. Merci, papa, pour votre intervention. C'est une bonne façon de témoigner notre foi. Notre Dieu est plus grand que d'autres dieux. Parmi tous les dieux de ce monde, notre Dieu est l'incomparable. Ça, c'est ce que nous devons mettre dans notre tête. Merci beaucoup, papa, dans notre esprit, croire à cela. Nous donnons la parole au pasteur Samuel, s'il vous plaît, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Maman Christine. Je voulais ici montrer dans le verset 4 que c'est un exemple à suivre, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Mais je vois ici que c'est un verset qui m'interpelle personnellement dans la manière, dans la façon dont nous construisons aujourd'hui. Nous avons des églises, mais des fois nous disons qu'il ne faut pas, c'est pas important, Dieu n'a pas besoin de maison. Et parfois les lieux où nous prions, je vais dans certains lieux où il n'y a pas de déchets, c'est minable parfois, excusez-moi le terme, mais nous pensons que Dieu ne mérite pas d'avoir de maison. Disons, à quoi bon? Il faut utiliser ce qu'il y a. Et vous voyez, ça va coûter cher. Mais ici, on voit que lui, il prend du temps. Et il veut construire quelque chose qui un monument qui reste. Et par la présence de ce monument, de la présence du temple, les gens peuvent voir que c'est le temple dédié au Dieu d'Israël, qu'il appelle d'abord aussi mon Dieu et ensuite notre Dieu. Le Seigneur, à l'honneur du Seigneur, notre Dieu, dans le verset 3. Dans le verset 3, il y a encore à l'honneur du Seigneur, mon Dieu. Donc, je me dis, le verset 4, c'est une interpellation pour nous. Est-ce que nous pouvons aussi construire? Est-ce que nous pouvons encourager des gens, nos frères, nos sœurs, pour la construction de temples? Ou bien c'est seulement construit, c'est fini, nous autres, nous ne pouvons plus. Merci.
Amen. Merci, papa, pour ajouter cette interpellation. Qu'en est-il des lieux où nous glorifions le Seigneur? Et quand nous construisons quand même, est-ce que nous tenons compte que notre Dieu est plus grand, qu'il mérite un endroit aussi très, très beau pour lui et grand, même si que nous sachons vraiment choisir là où nous louons notre Dieu, parce qu'il mérite aussi d'être honoré de cette façon-là. Bien-aimé, en attendant que la modératrice voie les mains, je suis au verset 5. Tellement qu'il voit que son Dieu est plus grand que d'autres dieux, il dit, mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Salomon, bien-aimé, est humble, simple. Il voit qu'il ne mérite pas de lui bâtir, parce que les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. Et qui suis-je pour lui bâtir une maison? Tout au plus, c'est pour les parfums. Bien-aimé, quelle humilité qu'il y a dans cet homme. Il voit que non, Dieu est grand, même ce que je veux construire. Ce n'est pas que Dieu viendra habiter, mais juste pour que je lui brûle le parfum. Et c'est pour cela qu'il va au verset 6, il dit, bien-aimé, à présent, envoie-moi un homme habile à travailler l'or, l'argent. Bien-aimé, il n'a pas pris n'importe qui, les hommes habiles. Dans les services de Dieu, nous avons besoin des hommes habiles, pas de négligents. Ceux qui savent bien faire le travail du Seigneur. Notre Dieu mérite aussi qu'on l'honore dans par notre façon de le servir, la qualité du travail que nous offrons à notre Dieu. Et cette humiliation de voir vraiment que Dieu est grand, je ne mérite rien. Je ne peux pas dire non, je suis tellement important que Dieu me cherche, sans moi ce travail. Non, non, non. Il est en train de dire, qui suis-je, moi, Salomon? Le pasteur Célé nous disait hier, il pouvait dire comme Paul disait, je suis la moindre de ses disciples. Et ici, Salomon peut dire, peut-être, le texte ne nous dit pas, mais il dit, mais je suis d'ailleurs, je viens de Bethsheba, la femme d'Uri. Il y avait d'autres enfants avant moi. Donc, pour dire que nous devons bien aimer chaque fois dans le travail du Seigneur, ou quand nous faisons quelque chose, que nous soyons animés de l'humilité, que nous ne méritons rien, c'est tout simplement la grâce de Dieu qui permet que nous fassions ce que nous pouvons faire pour notre Dieu. Amen.
Amen.
Oui, bien aimé. Nous sommes la personne et un mythe jusque-là. Donc, nous sommes au verset 6, 7 plutôt.
Oui, j'aimerais parler.
Oui, allez-y, papa.
Oui, au verset 6, à la fin, la phrase qui termine, il travaillera avec mes propres spécialistes. Ce que mon père David a désigné et qui habite Jérusalem ou ailleurs dans le pays de Juda. Ici, Salomon ne veut pas dire que, comme il a dit là-bas, moi ici, je donne aussi mes hommes, ils vont travailler ensemble. Non. Salomon nous montre que le travail qu'il est en train de vouloir faire, ce travail était conçu déjà par son papa. Et son papa, comme nous voyons il y a plusieurs mois, que son papa a tout arrangé. Même des hommes ici. Les hommes ici ont été désignés par son père et il les garde. Salomon fait confiance à son papa. Il fait bien sûr confiance à Dieu, comme nous savons. Il fait confiance à l'autre, le roi d'Hiram. Et lui-même est là avec son esprit de discernement. Que voilà, pour ici, je prends ce qui vient de là. Pour ici, j'ai... Donc, et c'est comme ça que son travail a bien marché. Parce que papa a déjà terminé. Il pourrait dire, bon, ah, c'est un vieux là. D'ailleurs, c'était quand il voulait mourir. Moi, je dois choisir mes hommes. Parce que je suis là. J'oublie ce que papa a fait. Non, il n'oublie pas. Il fait confiance à son père. Comme Dieu a fait confiance en lui. Et comme il fait confiance à Hiram. Et c'est cette façon de travailler avec confiance que ce que nous faisons puisse marcher. Parce que sinon, si on voit seulement soi-même, ah, Dieu m'a dit que je serai intelligent, je serai sage et tout ça. Bon, j'oublie les autres. Non, il faut aussi considérer les autres pour le travail réussisse. Considérez aussi les autres.
Amen. Merci, papa, pour votre intervention. Considérez aussi les autres. Et il a considéré celui qui l'a précédé, son père. C'est que tenir compte, prendre en considération ce qu'il a fait. Voilà l'esprit que nous devons avoir dans le Seigneur. C'est l'esprit de dire que nous travaillons dans la collaboration, disons, considérant le travail de l'un et l'autre, et non penser que non, moi, ce que j'ai fait est meilleur, parce que lui, le Seigneur lui a donné la sagesse. Il peut donner des raisons aussi, dire que moi, je suis plus sage que mon père. Mais non, il a considéré le travail et les ouvriers de l'autre. Donc, ça, c'est vraiment un très bon exemple à suivre. Bien-aimé, oui, quand nous voyons le verset 7 là, il dit « Envoie-moi du Liban le bois de cèdre de Cypre, car je sais que tes serviteurs savent couper le bois du Liban. Voici mes serviteurs seront avec tes serviteurs. » Ça, c'est très bien de reconnaître les qualités des autres. Et puis, c'est que non, on peut être dans d'autres choses, on ne s'y connaît pas tellement. Mais que ça ne soit pas une honte, il dit, mes serviteurs seront aussi avec tes serviteurs. Donc, pour dire que, comme on n'a pas de bois chez nous, mes serviteurs ne connaissent pas les fer, mais ils vont être avec tes serviteurs pour qu'ils travaillent. Ça, c'est vraiment un bon esprit dans le travail du Seigneur. Nous avons besoin d'avoir la simplicité du cœur et pour faire progresser le travail du Seigneur. Merci. Nous donnons la parole au pasteur Solé, et puis je reviendrai au pasteur Samuel.
Oui, merci, maman Christine, pour la parole. Moi, je suis au verset suivant, c'est le verset 8. Il demande qu'on lui prépare du bois en abondance, car la maison qu'il va bâtir sera une maison très grande, mais aussi une maison magnifique. La leçon que je tire, c'est que cet homme, il cherche l'excellence en tout. Il cherche les hommes qui savent faire leur travail, qui savent travailler leur argent, le fer et d'autres matières. Il va demander du bois en abondance, et ce n'est même pas n'importe quel bois, parce que nous connaissons que dans le bois, il y a aussi de la qualité. Les bois qu'il demande ici, les bois de cèdre, de cypre, de santal, ce sont la qualité du bois. C'est le bois durable. Et la maison qu'il veut bâtir, il ne veut pas bâtir n'importe comment. Nous allons voir quand la construction va démarrer demain, au chapitre 3. C'est une maison magnifique qu'il veut bâtir pour l'Éternel. La leçon que je tire, c'est que nous devons chercher vraiment de l'excellence dans le travail de Dieu. Comme Paul pouvait dire aux Corinthiens, que travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas vain. Donc nous aussi, cherchons, quand nous devons faire quelque chose pour le Seigneur, faisons-le bien, faisons-le à temps, prenons tous les soins de préparer ce que nous voulons faire réellement pour le Seigneur. Amen.
Amen. Merci, Pasteur Céleste. D'emblée, dans ses pensées, il veut que ce travail soit vraiment magnifique, un grand travail magnifique. Ça, c'est vraiment bien. Et notre conseil, c'est que nous devons chercher l'excellence. Ça, c'est un très bon exemple à suivre. Merci, papa. Nous donnons la parole plutôt au pasteur Samuel, s'il vous plaît.
Oui, merci, maman. Nous avions les mêmes idées sur le verset 9, le verset 8, que je voulais aussi commenter pour voir la qualité, la grandeur. Donc, magnifique, grand. Et encore une fois, je peux voir cela parce que nous sommes des hommes. Si vous regardez dans vos villes où vous êtes, vous verrez qu'il y a certaines églises, par exemple les catholiques, les méthodistes, les presbytériens, vous verrez qu'ils ont construit en matériaux durables, et de baptistes aussi et d'autres églises. En matériaux durables, et quand vous entrez dans l'église, vous voyez même que l'église est magnifique. Je crois qu'ils ont suivi le modèle biblique. Ce qui me pousse vraiment à dire que nous devions aussi faire des choses, si le Seigneur nous met à cœur de nous donne des moyens, nous met à cœur de construire, que nous puissions construire quelque chose de qualité, et quelque chose que les hommes et les femmes, même après nous, pourront admirer aussi.
Amen.
Mais la tendance, nous les et ces choses vont, quand le Seigneur va venir, ça va partir et puis c'est fini. Donc nous pouvons travailler dans n'importe quelle condition. C'est ce qui est quand même déplorable chez nous autres évangéliques, parce que nous vivons dans ce monde ici maintenant. Alors je me dis, l'excellence doit se traduire aussi par les œuvres que nous bâtissons. Et au verset 9, j'ajoute pour dire que je vois ici que c'est Salomon qui va pourvoir aux besoins des travailleurs. Les travailleurs ne vont pas travailler affamés, il va produire, il va leur donner, il va fournir du blé, de l'orge, le vin, donc à manger, donc de l'huile. On voit que ces gens vont travailler, mais ils seront aussi nourris. Ils auront leur nourriture de chaque jour. Cela nous pose aussi des problèmes pour dire, quand nous devons travailler avec des gens, nous devons aussi les pourvoir aussi à leurs besoins. C'est voulu aussi de Dieu, notre Père.
Amen.
Merci.
Oui, merci beaucoup, papa, pour cet ajout de verset 9 où nous voyons sa demande, mais il propose, il veut aussi donner, contribuer. Ça, c'est très important. Donner, que c'est moi qui vais fournir, c'est moi qui je vais fournir.
ce qu'ils vont manger. Donc ça, c'est un très bon exemple à suivre aussi, bien-aimé. Et surtout, ce que papa a dit précédemment pour dire que nous devons construire. Vraiment, je brûle d'envie. J'ai toujours dit à mon Dieu, il y a un projet qu'il a mis dans notre cœur depuis longtemps, vraiment, qu'on ne retourne pas auprès de lui sans avoir laissé cet édifice-là. Amen.
Amen. Je dis amen.
Oui, bien-aimé, nous n'avons pas plus assez de temps, mais si nous pouvons amorcer à partir de 10, qu'est-ce que tu, Ram, roi de Tyr, répond. Papa José, vous avez la parole, s'il vous plaît.
Ce roi païen, parce qu'il n'est pas du peuple de Dieu, confesse le Dieu d'Israël ici. Quand il répond par écrit, dit, c'est parce que le Seigneur aime son peuple qu'il t'en a fait le roi. Verset 10, il faut remercier le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a créé le ciel et la terre.
Amen.
Oui, je m'arrête là, bien-aimé. Nous disions que le roi Salomon a confessé sa foi lorsque, au verset 4, il dit pour cette maison-là qui sera grandiose, car notre Dieu est le plus grand que n'importe quel Dieu. Il s'est arrêté là. Et maintenant, l'autre roi ajoute une chose plus importante que le Seigneur, votre Dieu, le Dieu d'Israël, a créé le ciel et la terre. Oui. Donc, il confesse la grandeur de notre Dieu. Il voit en notre Dieu le Créateur. Il est le Créateur. Tandis que le Dieu de son pays n'est pas le Créateur. Ici, nous avons la confession d'une personne étrangère, hein, la confession de foi d'une personne étrangère à la foi du peuple d'Israël. Et c'est bien, c'est bien, bien aimé, un exemple à suivre. Et en même temps, nous devons être fiers de notre Dieu qui est le Créateur. Merci.
Amen. Merci beaucoup. Nous devons être fiers de notre Dieu. Je peux vous suivre la confession. Non seulement il a créé le ciel et la terre, et il dit ceci, c'est qu'il a donné au roi David un fils sage, au bon sens et à l'intelligence éprouvée, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Bien-aimé, quelle confession. Que le Seigneur nous fasse grâce quand nous sommes avec des gens qui savent voir que notre Dieu est puissant. Et comme si nous fouillons les païens, comment est-ce qu'ils sauront? Ici, David n'a pas fui ses rois païens. Il était avec lui et le roi, voyant les exploits de Dieu dans la vie de David, a tiré une conclusion. Donc, chaque fois quand nous sommes à côté de ceux qui ne connaissent pas Dieu, prions le Seigneur qu'il fasse de grandes choses dans nos vies pour que ça prêche les autres et que les autres confessent. Nous avons vu à chaque fois Dieu a fait de grandes choses, ça a toujours attiré les gens qui confessent que le vrai Dieu, c'est le Dieu de tel. Amen.
Amen.
Oui, nous donnons la parole au pasteur Célé, s'il vous plaît.
Oui, merci, maman Christine, pour la parole. Quand nous regardons le premier verset et le dernier verset, c'est le même. C'est le même dans le sens que le dernier verset et le 17e verset dans la version seconde, on l'introduit, c'est le verset 16 qui introduit ce verset. La plupart qu'on va dénombrer les 70 000 porteurs de fardeaux, 80 000 tailleurs et 3 000, ce sont des immigrants. Ce sont les immigrants qui étaient dans le pays d'Israël et dont les comptes avaient été faits par David d'ailleurs. Le recensement avait été fait par David. Donc, la première leçon que je tire, c'est qu'en tant qu'immigrant, l'immigration n'a pas commencé aujourd'hui. En deuxième lieu, les immigrants ont une caractéristique quand ils arrivent, ce sont des grands travailleurs. Donc, ils doivent participer à l'économie, à la santé en fait du pays d'immigration. Donc, une grande leçon pour nous en tant qu'immigrants, pour que nous puissions pas arriver pour tourner les pouces, pour vivre sous le social, mais nous devons vraiment participer à la deuxième ou seconde patrie que le Seigneur nous a donnée. Donc, c'est depuis des temps anciens que l'immigration a commencé, et Dieu connaît l'immigrant parce qu'il parle toujours. Vous avez pris soin de l'immigrant, vous avez pris soin de l'orphelin, donc vous êtes occupé de moi. Amen.
Des immigrants. Merci beaucoup, Pasteur Célé, pour votre intervention. Bien-aimé, je veux aller avec le verset 12. Je crois qu'on n'a plus le temps. Je veux dire ce que je peux dire ici. Le verset 12, nous voyons, après avoir confessé que Dieu a créé le ciel et la terre, et il a donné un fils sage à David qui fait ceci, cela, que nous avons lu, que nous voyons dans le verset 11. Il décide maintenant, il dit, j'envoie maintenant un homme habile à l'intelligence éprouvée, Oram habile. Et il décrit ce fils d'une femme d'entre les filles de Dan, nous savons Dan, et d'un père tyrien. Donc pour dire que cet enfant qu'on envoie avec cette intelligence qui sait travailler l'or, l'argent, bronze, le fer, la pierre, les bois, les étoffes teintes, poutres et en violet, les étoffes de byssus, de carmin, il connaît tout l'art de la gravure et la fabrication de tous les objets qu'on lui donnera à exécuter avec des hommes habiles, avec des femmes habiles de Monseigneur David, ton père. Voilà, bien-aimé, il donne et il décrit ce genre de personnes. Donc, Dieu donne des qualités. Voyez, pour une personne, il a donné beaucoup de dons. Qui sait qu'il faisait, il était capable de ceci, cela. Dieu peut aussi mettre au milieu de nous des frères et des sœurs comme ça, qu'on ne dit pas, non, toujours lui, non, non, non. Si Dieu a donné des habiletés, nous devons laisser la personne travailler. Et bien-aimé, 14, lui aussi le roi de Tyr, Hiram n'oublie pas hein, la promesse, n'oublie pas ce que les repas, la nourriture que Salomon avait promis. Il dit, maintenant que mon Seigneur envoie ses serviteurs de froment d'orge, peut-être qu'il aussi n'en avait pas. Et nous couperons le bois. Il s'arrange, il prépare, nous allons couper. Il donne même la direction. Ça sera comme ça et nous te les expédierons par la mer et par le feu jusqu'à Jaffa. Et tu les feras monter à Jérusalem. Donc, bien-aimés, quand nous faisons quelque chose où il y a des clauses, nous devons bien les faire. Comme ici, ils savent que le bois va cheminer par ici. Qu'on ne se retrouve pas en train de faire un projet où on demande ici, non, je ne sais pas, là j'avais... Non, non, non. Qu'on soit vraiment, qu'on suit cet exemple bien spécifique, les voies pas passer par ici. Et nous avons vu, bien-aimé, toute la préparation. Donc je dirais que ce soir, bien-aimé, de lire les commentaires, nous, pour chacun de nous peut lire, mais nous devons savoir que notre Dieu... Il aime un travail. travail de qualité et que nous devons, en temps de faire quelque chose, nous préparer à conséquence et laisser même, disons, préparer, construisons des édifices pour la gloire de notre Dieu. Pour là où nous louons le Seigneur, nous devons savoir où, et que ce soit des endroits très agréables, magnifiques, et surtout son objectif, c'est construire une maison, une très grande, magnifique, parce que son Dieu est incomparable. Son Dieu est un Dieu puissant. Vraiment, ça c'est magnifique. Et dans nous, quand nous travaillons, ne disons pas, non, mais si je dis, je ne pointe pas celui-ci, il va dire, il est là seulement comme, il ne fait rien. Non, choisissons des spécialistes, des gens qui savent bien faire. Ne nous gênons pas. Quand quelqu'un ne sait pas faire le travail du Seigneur, ne lui donnons pas la tâche, il va bâcler. Non. Et quand nous ne connaissons pas non plus, quand on nous cherche, on dit, non, s'il vous plaît, là, je ne saurai pas. Et surtout l'humilité, chercher l'excellence. Et soyons en bonne relation avec tous les voisins, même des païens. On ne sait jamais. Dieu a fait que nous vivons là à la terre de Dieu, nous vivons sur cette terre en étant en bonne relation avec tout le monde. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, demain, nous allons continuer avec ces deux chroniques, chapitre 3, de verset 1 jusqu'au verset 17. Et question, c'est 1 et question 7. Alors, je vais demander à Papa José des États-Unis de prier pour nous. Non. Papa José de Paris qui n'a pas parlé beaucoup, de parler, prier pour nous, s'il vous plaît.
Nous prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Pour la leçon que tu viens encore de nous donner. Merci Seigneur. Nous devons être sages et intelligents, habiles pour être utiles à ton service. Béni sois-tu, ô Dieu, parce que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisi. Équipe-nous encore Seigneur, afin que nous soyons toujours utiles. Quelconque travail que tu nous demandes de te faire. Merci pour la participation de tout un chacun ce soir que tu as appelé à cette réunion. Même ceux qui n'étaient pas là avec nous ce soir, te prions éternel, la grâce que tu nous as accordée soit aussi la leur. Voilà, Dieu Tout-Puissant, nous voulons terminer notre réunion. Nous sommes arrivés à la fin. Mais nous te supplions, Seigneur, en te rappelant aussi notre grand rendez-vous qui nous attend en Belgique. Nous savons que tu es là. C'est toi qui vas nous accueillir. Notre arrivée, notre séjour est entre tes saintes et divines mains. Nous te rappelons, Seigneur, que nous n'allons pas là-bas en touriste, mais nous allons réellement répondre à ton invitation. Et quand nous allons rentrer chez nous, Seigneur, nous ne manquerons pas de témoigner que oui, nous avons été face à face avec l'Éternel qui nous a appelés, comme quand tu donnais des rendez-vous à ton serviteur Moïse, de monter sur une montagne, tu étais là présent. Et quand Moïse descendait sur la montagne, oh, il y avait rempli de la grâce, mais les gens ne pouvaient pas les fixer ou les regarder. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Te supplions, Seigneur, par ta grâce, par ta compassion, de nous faire aussi la même chose. Prenez cette réunion, Seigneur, entre tes saintes mains. Nous voulons réellement vivre ta présence et sous ta protection, nous voulons nous abandonner. Merci de bénir tout un chacun. Merci aussi pour le Saint-Esprit qui va continuer à utiliser nos bien-aimés qui vont se réunir bientôt pour continuer à étudier ta parole. Je sais que tu es au rendez-vous, tu seras là, tu vas leur parler aussi. Voilà, oh Dieu, pour nous qui sommes ici en Europe, nous allons bientôt dormir. Mais nous ne pouvons pas dormir nous seuls, Nous voulons réellement venir nous abandonner entre tes saintes mains. Prenez-nous en charge, afin que nous puissions témoigner toujours que Jésus est vivant. Te rendons grâce, nous te bénissons. Au nom de Jésus que nous venons de prier ainsi, et nous te disons Amen.
Amen, amen. Merci beaucoup, Papa José de Paris, pour la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu de David, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous donne des enfants intelligents comme Salomon, oui, pour servir Dieu. Amen.
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 Au revoir et bonne nuit.
Merci.